بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 5 du mois Sha'ban, le mois de la récitation du Coran de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 24 janvier 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture du livre de l'unicité de l'imam, revivificateur de la religion de l'islam de la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et on s'est rendu au 51e chapitre de ce livre, le 51e chapitre de ce livre que l'auteur rahimahullah a intitulé Bab qawlillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih. Donc il a intitulé ce chapitre par un verset de sourate al-A'raf dans lequel Allah azza wa jalla dit, dans le sens approximatif, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms et laissez ceux qui s'emploient à les profaner, c'est-à-dire ceux qui s'emploient à altérer leur sens. Donc l'auteur rahimallah a fait ce chapitre pour montrer l'importance et l'obligation de l'unicité d'Allah avec ces trois catégories. Et ainsi, ce livre de l'unicité, il aurait traité les trois catégories de l'unicité d'Allah. L'unicité de l'adoration et de la divinité, qui est la catégorie la plus importante et la plus abordée et la plus détaillée dans ce chapitre, dans ce livre. Et également l'unicité de la seigneurie. L'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala par tous ses actes qui lui sont spécifiques et propres à lui, subhanahu wa ta'ala. Également l'unicité des noms et des attributs, qui est abordée dans ce chapitre d'une manière directe. Et elle est abordée implicitement dans plusieurs chapitres également. Car ces trois catégories sont liées les unes aux autres. Et le mouahid, le monothéiste, c'est celui qui a vérifié les trois catégories seulement. C'est-à-dire celui qui a unifié Allah dans sa seigneurie en croyant qu'il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique gestionnaire et administrateur de toute sa création. Il a unifié Allah dans tous ses noms et dans tous ses attributs en lui attribuant les beaux noms et les attributs sublimes qu'il s'est attribué à lui-même dans le Coran ou dans la Sunna authentique, et unifie Allah dans la seigneurie en croyant qu'il est unique dans tous ses actes, la divinité, la seigneurie et les noms et les attributs. Également, dans ce chapitre, l'auteur rahimallah, par le biais de ce verset, il arrivera à un point très important en lien avec l'unicité d'Allah dans la divinité, dans l'adoration, ce qu'on appelle tawassul, invoquer Allah par ses noms. Invoquer Allah par ses noms, ça c'est légiféré et c'est une adoration, et Allah nous invite à le faire dans ce verset, et pour mettre en garde contre ceux qui invoquent des morts ou des personnes dans leur mausolée, ou des djinns, et que ça fait partie de al-shirk al-akbar, l'associationnisme majeur. Donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'invoque seulement lui, et exclusivement lui, et on l'invoque par ses noms et ses attributs. Également, on peut invoquer Allah par le biais de nos œuvres pieuses. Tu dis, oh Allah, j'ai fait telle chose pour toi, sincèrement, alors guéris-moi de cette maladie. Ça, c'est légiféré également. Et de l'invoquer par ses noms et ses attributs. Et ce n'est pas légiféré de l'invoquer par... en s'adressant à une créature, comme ceux qui demandent à Allah par le biais du prophète, alayhi salatu wassalam, ou qui demandent à Allah par le statut du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils disent dans leur invocation, « Oh Allah, je te demande par le statut de ton prophète, as'aluka bijahi an-nabi. » Certes, le prophète, alayhi salatu wassalam, a le statut le plus élevé auprès d'Allah. Mais ce n'est pas légiféré de l'invoquer, d'invoquer Allah par le statut du prophète, alayhi salatu wassalam. Par contre, tu peux invoquer Allah par ton amour du prophète, alayhi salatu wassalam, et par ton suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça revient à ce qu'on a dit en deuxième, tu invoques Allah par ses noms et ses attributs, et tu l'invoques par tes œuvres pieuses. Et l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est parmi les meilleures œuvres pieuses en islam. Et c'est ton acte. Donc tu l'invoques parce que tu as fait. Et non pas parce que les autres ont fait. Tu n'as pas accordé au prophète A.S. ce statut. Et tu n'as pas contribué dans ce statut du prophète A.S. C'est Allah qui lui a accordé. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est une innovation. De dire Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyik. C'est une innovation. Et ce n'est pas légiféré. Donc, voilà pourquoi l'auteur a fait ce chapitre. Pour ces deux points. Premièrement, pour affirmer l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Et également, pour nous enseigner at-tawassul qui est légiféré. Et nous mettre en garde contre tawassul qui n'est pas légiféré. Donc Allah dit dans ce verset وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Donc à Allah appartient les plus beaux noms. Les plus beaux noms, فَادْعُوهُ بِهَا. Invoquez-le donc par ses noms. Et donc ça englobe les deux catégories de l'invocation. Ce qu'on appelle dua al-ibada ou dua al-mas'ala. Dua al-ibada, c'est l'invocation d'adoration. C'est-à-dire, t'invoques Allah par ton acte d'adoration. Et dans cette catégorie rentrent toutes les adorations. As-salat fait partie de dua al-ibada. As-zakat fait partie de dua al-ibada. Et as-sadaqa fait partie de dua al-ibada. Et ainsi de suite. Donc tu dois réserver exclusivement toutes tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également dua al-mas'ala. Tu demandes à Allah, et tu formules une demande. Tu dis, oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, absous mes péchés. Oh Allah, élève mes degrés dans le paradis. Oh Allah, préserve-moi du châtiment de l'enfer. Donc toutes ces demandes qui sont dans l'au-delà. Et c'est les meilleures. Et vous ne trouverez pas les demandes de dunya dans les invocations du prophète, alayhi salam. Sauf une demande d'une chose de dunya qui aide dans l'au-delà. Malgré que ce soit autorisé. Tu veux demander à Allah de t'accorder une belle voiture, des choses comme ça, de l'argent, une grande fortune, c'est autorisé. Lakin, vous ne trouverez jamais ces demandes dans ce que le Nabi alayhi salam demandait. Il demande des choses de dunya, comme l'afia, d'être préservé, parce que c'est d'une grande aide dans la religion et dans ce qui te rapproche d'Allah. Que tu sois préservé dans ta santé, dans tes biens, dans ta famille, dans ta religion, et ainsi de suite. Taïb. Donc, toutes les demandes doivent être formulées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. N'invoque pas le prophète alayhi salatu wassalam. Allah l'a envoyé pour t'enseigner d'invoquer Allah seul. Ne dis pas « Madad, madad, ya Rasulallah ». Et si tu entends des ignorants qui le disent, apprends-leur que c'est pas autorisé. et que ça fait partie de shirk, l'associationnisme. Car l'invocation, c'est l'adoration. Et l'adoration entière, avec toutes ses catégories, fait partie, doit être réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas à une de ses créatures. La créature, c'est elle qui adore Allah. Et non pas elle qui va être adorée. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, on dit dans, pour entrer en islam, on dit, Ashhadu anna Muhammadan, Abdullahi wa Rasuluhu. Regarde, avec quoi t'entres en islam? Avec quoi t'entres en islam? Tu dis, t'attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Donc il est le serviteur d'Allah. Ça veut dire il est dans la servitude d'Allah à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas lui qui sera adoré. Et il est le messager d'Allah. Donc c'est lui que tu dois suivre. Et pas autre que lui. Alayhi salatu wa salam. Et dans tes invocations, t'emploie les noms qui correspondent à ta demande. Si tu dis Allah pardonne-moi, tu dis Allah maghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tu dis oh Allah pardonne-moi et fais-moi miséricorde car tu es le pardonneur et le tout miséricordieux. Tu dis oh Allah accorde-moi la subsistance car tu es ar-Razzaq. Le pourvoyeur de rizq, et ainsi de suite. Al-Qurtubi rahimahullah dans son tafsir, il a dit par rapport à ce verset, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا, il a dit dans ce verset, un ordre d'avoir la sincérité dans l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'écarter de la voie des associateurs et de ceux qui falsifient la religion et notamment qui altèrent l'essence des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Il y en a cette phrase qui est une phrase verbale. À la base on dit, dans autre que le Coran, on dit الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Lillahi. Regardez ici l'attribut, le mubtada, le sujet, il a été cité en deuxième. Et le khabar, il est cité en premier. Lillahi. C'est-à-dire ka'inatun lillahi. Ka'inatun lillahi. Appartient à Allah. Donc en dehors du Coran, on dira, pour faire une phrase dans l'ordre habituel, une phrase en arabe, elle est ou bien une phrase nominale ou verbale. La phrase verbale est composée d'un verbe et d'un sujet, obligatoirement. Et il peut y avoir un complément, comme il peut ne pas y avoir. Il n'est pas nécessaire dans la constitution d'une phrase verbale. Par contre, le verbe et le sujet sont indispensables. Et le sujet doit toujours venir après le verbe. En aucun cas, il vient en premier. S'il vient en premier, ça devient une phrase nominale, plus une phrase verbale. Si tu dis « Daraba Zaydun Akhahu » « Daraba » fi'l mad mabni ala al-fath. « Zaydun fa'ilun marfou' »« Akhahu » « Maf'oul bih »« Madroub miskin » C'est lui qui est frappé, qui a subi l'action. Et « Zayd » c'est celui qui a accompli l'action, « Al-fa'il » Lakin si tu dis « Zaydun Daraba » Akhahu. Si tu dis Zaydun daraba akhahu, ici c'est plus une phrase verbale, ça devient une phrase nominale. Zaydun ça devient un mubtada. Et daraba fi'l mad, le fa'il damir mustatir taqdiruhu huwa. Et akhahu maf'ul bih. Et tu dis ensuite el jumla al fi'liya daraba akhahu fi mahalli raf'in khabar. C'est ça le khabar. C'est une phrase. Regardez يعني la beauté de la langue arabe. Et la même chose ici dans ce verset, al-asma c'est al-mubtada. Lillahi les noms appartient à Allah. C'est pour ça dans la traduction nous disons que c'est Allah qui appartient. Non, ils ont traduit dans le même sens. Les plus beaux noms appartiennent à Allah. Les plus beaux noms appartiennent à Allah. C'est ça le sens de cette phrase. Lakin, pourquoi ça a été cité en premier? Le sens a été inversé en arabe. Quand on a recours à ce style, c'est pour indiquer le sens de l'exclusivité et de la spécificité. C'est-à-dire, tous les noms, tous les bons noms appartiennent à Allah seulement, exclusivement. C'est pour ça que le Qurtubi rahimahullah, de par sa connaissance et sa maîtrise de la langue arabe, il a déduit que ce verset indique la sincérité et l'exclusivité. En appliquant cette règle. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et laissez ceux qui s'emploient à profaner les noms d'Allah et à altérer leur sens. Laissez-les. Éloignez-vous d'eux. Laissez-les. Laissez-les. Ici, ذَرُوا. C'est un fi'l amr. C'est un verbe à l'impératif. Mais c'est pas un ordre. Yani le verbe, dans son apparence, ça donne un ordre. Mais en réalité, dans son sens, il ne donne pas un ordre. C'est pas un ordre au prophète alayhi salam et aux croyants de laisser ceux qui altèrent l'essence des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est un ordre pour donner le sens de la menace. Allah, il les menace. Il menace ceux qui profanent l'essence de ses noms. L'ordre en langue arabe, il peut venir avec plusieurs sens. Le sens apparent de l'ordre, il donne justement le sens de l'ordre. C'est un ordre qui est donné. Je te dis, fais. Par exemple, ton père te dit, reste comme ça. Dans le sens, reste comme ça et tu vas voir si tu fais une bêtise. Il te dit, continue. Tu fais une bêtise, il te dit, continue. Ça, c'est un ordre. Mais lui, il te dit pas de continuer dans le sens continuer à faire les dégâts que tu es en train de faire. Il te menace que si jamais tu continues, il va t'arriver ce qui va t'arriver. Après, selon ton père. Surtout si tu dors pendant le cours, il risque d'être énervé. Ça fait le dernier, il s'est réveillé, mashallah. Il reste juste un seul qui est un petit peu en somnolence. Donc, Hadawa, ce qui est voulu dans ce verset, mes frères, c'est pas un ordre, mais c'est une menace à ceux qui profanent et qui altèrent l'essence des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Allah il dit dans le sens approximatif, laisse-les manger et jouir un temps. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. Et laisse-les être discrets par l'espoir, car bientôt ils sauront. Ils sauront ce qui les attend. Comme châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi c'est une menace. Et non pas un ordre de les laisser faire le mal. طيب. Maintenant, l'ilhad. Tawassul, nous avons vu qu'il est légiféré d'invoquer Allah en lui demandant directement. Tu dis à Allah, donne-moi. Il est légiféré de l'invoquer et de lui demander par ses noms et ses attributs. Et une troisième catégorie qui est légiférée également, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par tes actions pieuses, les actions dans lesquelles tu penses avoir été sincère et que tu as fait conformément à la sunna. Par exemple, un jour, t'as été bon envers tes parents, tu leur as rendu beaucoup de services, et ainsi de suite, ce jour-là, t'es tombé dans une difficulté et tu veux qu'Allah te vienne en aide et en secours. Tu dis, oh Allah, aide-moi par mon obéissance à mes parents. Aide-moi par ma bonté envers mes parents. Comme les trois qui ont été emprisonnés dans une grotte qui s'est fermée sur eux, et chacun a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre qu'il a faite en pensant avoir été sincère dans cette œuvre. Un qui a invoqué Allah par le délaissement de la fornication, tout en étant capable de le faire par crainte d'Allah. Et l'autre a invoqué Allah justement par sa bonté envers ses parents. Et le troisième qui a invoqué Allah par sa confiance et le fait d'avoir gardé les dépôts des gens et les avoir rendus dans les meilleures des conditions, sans exiger de salaire ni de contrepartie, alors qu'ils pouvaient le demander. Il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont demandé à Allah de leur donner une issue, et finalement cette pierre qui bloquait qui les bloquait dans la grotte s'est ouverte par l'ordre et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ce qui n'est pas autorisé, c'est d'invoquer les morts, de demander à des morts, ou de demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie du shirk. Maintenant, on va arriver au deuxième point qui est visé dans ce chapitre. Comme on a vu, ce qui est visé, ce sont deux points. Les significations de l'ilhad et montrer tawassul qui est autorisé et celui qui n'est pas autorisé. Donc l'ilhad, en langue arabe, ça signifie al-mail. Linguistiquement parlant, ça signifie al-mail. Al-hada, yani mala. C'est pour ça qu'on appelle la manière de creuser la tombe du tiroir, on l'appelle l'ahd. Pourquoi? Parce que le mail, c'est le caractère oblique penchant d'une chose. C'est pour ça qu'on appelle cette tombe creusée de cette manière sous forme d'un tiroir. On fait un fossé comme ça et après on fait sous forme d'un tiroir sur le côté droit, on fait un trou comme ça, comme un tiroir. Ça s'appelle l'ahd. Et ça, c'est la meilleure façon de creuser une tombe. Et la deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle shaq. Shaq, on fait tout simplement un trou comme ça. On fait un trou et on place le défunt dans ce trou et on le ferme avec des briques avant de mettre de la terre. La terre ne va pas directement sur le mort. Et l'ahd, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que l'ahd, dans l'ahd, Nabi alayhi salam a attendu qu'on ramène quelqu'un pour creuser une tombe avec l'ahd. Pourquoi l'ahd est meilleur? Parmi les sagesses que les hommes de science citent, c'est que dans l'ahd, les animaux ne peuvent pas déterrer le mort. Ne peuvent pas déterrer le mort. Car cette partie de la terre qui est au-dessus du mort, elle n'a pas été creusée. Et donc, les animaux ne peuvent pas savoir qu'il y a un cadavre en dessous. Car cette terre n'a pas été touchée, qui est directement sur le mort. Car lui, on le met dans un tiroir. Donc, la partie supérieure n'a pas été et restée intacte. Ça, c'est parmi les sagesses. Et également, s'il y a un torrent, une forte pluie, elle ne va pas le déterrer non plus. Donc ça, c'est la signification de l'ilhad linguistiquement parlant. L'ilhad, ça signifie, en langue arabe, ça signifie le mail. Le mail, c'est l'inclinaison, c'est la pente, c'est le caractère oblique. Quelque chose qui est en biais, qui n'est pas droite. Taïb. Et religieusement parlant, l'ilhad, c'est de s'écarter de la droiture. S'écarter de la droiture, qui est l'opposé de l'ahd. S'écarter de la droiture au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, l'ilhad, c'est de s'écarter de ce qui est obligatoire vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est obligatoire au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de n'affirmer Allah comme nom et comme attribut que ce qu'il s'est affirmé à lui-même dans le Coran et dans la Sunna authentique. Et de croire que leur sang, qu'il comporte des sens réels. Quand on apprend le nom d'Allah, As-Sami', celui qui entend tout. Donc, c'est rapporté dans le Coran. Il faut affirmer et croire que ça fait partie des noms d'Allah. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de savoir que ce nom d'Allah comporte un attribut. L'attribut de lui, c'est-à-dire celui qui entend tout. Celui qui entend tout, subhanahu wa ta'ala. Et de croire que cet attribut est réel vis-à-vis d'Allah. Allah, il entend réellement. Ce que nous, on ignore, ce que nous ignorons, c'est comment Allah entend. Ça, on ne le sait pas. Lakin, nous savons qu'Allah entend toutes choses réellement. Et nous savons que cette manière, elle correspond à la grandeur et la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ilhad, au sujet des noms d'Allah et de ses attributs, c'est de s'écarter de ce qui est obligatoire à leur sujet. Et donc, ça va comporter plusieurs catégories que les hommes de science ont mentionnées dans leurs livres, tels que Cheikh Ibn Uthaymeen, dans l'Wasitiyya, et la plupart des hommes de science mentionnent ces quatre catégories. Ils disent la première catégorie, c'est de renier certains des noms ou des attributs d'Allah. Ou la totalité, de les renier. Comme le Jahmiya, ils disent Allah n'entend pas. De les renier. Une autre forme d'altération au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, c'est d'affirmer le nom et de renier le sens. De dire na'am. Ça fait partie des noms d'Allah, qu'il est Samir, mais Allah n'entend pas. Et ça, c'est comme l'Asha'ira. Asha'ira, il renie l'essence des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'tazila affirme le nom et renie l'attribut. Al-Jahmiya renie les noms et les attributs. Également, parmi les formes de l'ilhad au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, c'est de faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de dire qu'Allah est semblable à ses créatures dans ses attributs. Et ça, c'est une forme d'égarement très dangereuse. De croire qu'Allah entend comme une créature entend. Allah entend réellement, mais pas comme les créatures. Car il est le créateur, et le créateur n'est semblable en rien à ses créatures. C'est pour ça, il faut affirmer le nom, et affirmer l'attribut qu'il indique, et désespérer de connaître son comment. C'est avec ces trois piliers, comme a dit Cheikh Amin Shinkati, que tu arrives à l'obligation au sujet des noms et des attributs. T'affirmes le nom, t'affirmes ce qu'il implique comme attribut, et tu désespères d'arriver à la connaissance du comment. Et également parmi les formes de l'ilhad, et de la falsification, et de l'altération, de ses noms et de ses attributs, c'est de nommer Allah par des noms des créatures. Des noms qu'il ne s'est pas donné, comme l'ont fait les chrétiens. Les chrétiens, ils appellent Allah, ils lui ont inventé le nom, le Père. Le Père, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Ça, c'est parmi les noms des créatures. Le Père, le Fils. Donc ça, c'est une altération et une profanation au sujet des noms d'Allah. Lui donner des noms qu'il ne s'est pas donné. Et la dernière catégorie, c'est de dériver de ces noms des noms pour des créatures, comme l'ont fait les païens et les associateurs parmi les koufars, les mécréants de Quraysh. Ils ont dérivé des noms de leurs idoles, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appelé Lat dérivé de Allah, l'Uzza dérivé de l'Aziz, Manat dérivé de l'Mannan. Et ça, c'est selon un des deux avis au sujet de cette question. Donc ce verset indique clairement l'obligation d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs, et de l'adorer avec, notamment en l'invoquant, tout en utilisant les noms adéquats à notre demande, et l'interdiction d'altérer les sens de ses noms et de ses attributs, ou de les donner à certaines de ses créatures, ou d'attribuer à Allah des noms qu'il ne s'est pas donné. Tout ça rentre dans l'interdit. Ensuite, l'auteur, rahimallah, a cité une parole, il a dit d'Ibn Abbas. Ce qui est juste, c'est une parole de Qatada. C'est une parole de Qatada, et non pas d'Ibn Abbas, qui est rapportée par Ibn Abi Hatim dans son tafsir. C'est Qatada qui rapporte cette parole. Il a dit « Yulhiduna fi asma'ihi yushrikun » wa anhu, et le deuxième récit, il est rapporté de Mujahid. Là, le deuxième, certains l'ont attribué à Ibn Abbas. Donc ça peut passer. Mais le premier, personne ne l'a attribué à Ibn Abbas. Ils disent, et yani, peut-être que l'auteur n'est pas revenu aux sources quand il a écrit ce passage. En tout cas, ce athar, il est rapporté de Qatada. Yulhiduna fi asma'ihi yushrikun. Il a dit, ils altèrent yulhiduna fi asma'ihi, il a dit yushrikun, qui dévie vis-à-vis de ses noms, il a dit ils associent. Et le deuxième affar de Mujahid, il a dit aussi ils ont nommé Allat à partir d'Allah et l'Uzza à partir de l'Aziz. Et l'Uzza à partir de l'Aziz. Il a cité un troisième athar selon l'A'mash. Il a dit, ils y ajoutent ceux qui n'en font pas partie. Et vous constatez qu'ainsi, ils ont cité plusieurs catégories de cet égarement, de cette déviance au sujet des noms et des attributs d'Allah. La première parole de Qatada, il dit yushrikun. Il donne des associés. Il donne des associés. Et la deuxième d'Ibn Abbas, qui est plutôt de Mujahid, il a dit, ils ont nommé Lat à partir d'Allah. C'est-à-dire, ils ont dérivé un nom pour leur statut à partir d'un nom d'Allah. Et ils ont dérivé l'Aziz également. De l'Aziz, ils ont dérivé l'Uzza, un nom de parmi leurs idoles. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Et aussi, ce qui est rapporté de l'A'mash, ils attribuent à Allah des noms qui ne font pas partie de ces noms. Ce domaine, comme les hommes de science le précisent, est un domaine tawqifi, c'est-à-dire un domaine dans lequel on se limite à ce qui est rapporté. Il est purement basé sur les textes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effort à faire dans ce domaine pour inventer des noms d'Allah ou des attributs d'Allah. On se limite à ce qui est rapporté. Et c'est pour ça d'attribuer à Allah des noms qu'il ne s'est pas attribué à lui-même, ça fait partie de l'égarement au sujet de ses noms et de ses attributs. Également, plusieurs textes ont été rapportés par rapport au danger de falsifier l'essence des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna, dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui profanent nos noms, ceux qui altèrent le sens de nos versets, ne peuvent se dérober à nous. Ne peuvent se dérober à nous. Ceux qui détournent de nos versets, de nos signes, ne sauraient se dérober à nous. C'est-à-dire ceux qui altèrent l'essence. Et ça va englober tout ce qu'on a vu. Les quatre catégories d'altération et de falsification et de profanation au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc Allah il dit, لا يخفون علينا. Ceux-là ne peuvent en aucun cas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est une menace qu'il soit châtié. C'est une menace qu'il soit châtié. Le dernier point, faut savoir, mes frères, que l'altération au sujet des signes et des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux catégories. Les signes d'Allah universels et les signes religieux. L'ayat al-kawniya ou l'ayat al-shar'iya. L'ayat al-kawniya, tout simplement, ce sont les créatures d'Allah. L'ayat al-shar'iya, tout simplement, c'est la religion d'Allah. Donc l'altération et la falsification et la déformation peut avoir lieu dans les deux domaines. Au niveau des signes universels qui sont les créatures d'Allah. Comme prétendre que quelqu'un a créé quelque chose parmi les créatures d'Allah. Dire que c'est un tel qui a créé la lune, qui a créé le soleil, qui a créé le ciel, ça c'est les créatures d'Allah. Attribuer leur création à une créature rentre dans cette déviation. Ou de prétendre que quelqu'un s'est associé à Allah dans leur création. Ou de prétendre, la troisième catégorie, que quelqu'un a aidé Allah dans leur création. Allah, il est l'unique créateur. Il n'a point d'associé. Et il n'a point d'aide dans toute sa création. Comme j'ai entendu d'un témoin Jéhovah un jour, je lui posais la question, c'est qui a tout créé? Il m'a dit, Dieu, en voulant Allah, il a dit, Allah a créé Jésus. Et après, c'est Jésus qui a tout créé. Donc ça, c'est un égarement au sujet des signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attribuer leur création à autre que lui. Ou de croire que quelqu'un a participé avec Allah dans leur création. Par contre, l'altération au sujet des signes religieux, elle est aussi de trois catégories. La première, c'est de démentir les informations. Alors que l'obligation au sujet des informations dans la religion, c'est de croire en leur véracité. Donc si quelqu'un dément ce que Allah dit, il est rentré dans cette altération et cette profanation. Si ils œuvrent contrairement au jugement qu'ils impliquent, Allah il autorise, lui il interdit. Allah interdit, lui il autorise. Allah il dit que c'est obligatoire, lui il dit que c'est interdit. Et ainsi de suite. Ça aussi c'est une profanation au niveau des jugements. Et la troisième catégorie, c'est la falsification au niveau des jugements et des informations. De changer les jugements, les jugements et les lois d'Allah ou de changer les informations. Et tout ça a été interdit. En résumé, mes frères, par rapport à ce chapitre, nous retenons l'obligation d'unifier Allah dans ses noms et ses attributs. Et ceci consiste à lui attribuer les beaux noms et les attributs sublimes qu'il s'est attribués à lui-même dans le Coran ou dans la Sunna. Et nous retenons également l'interdiction d'altérer l'essence des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, et le devoir de croire que l'essence qu'il comporte sont réelles, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi nous retenons que quand on invoque Allah, on l'invoque directement ou on l'invoque par ses noms et ses attributs. Tu l'invoques, tu dis « Ah Allah, donne-moi !» Et tu l'invoques par tous ses noms et tous ses attributs. « Oh, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafour, Ya Jabbar !» Selon la demande, tu choisis le nom adéquat à ce que tu demandes. Et nous pouvons l'invoquer également par le biais et par le moyen d'une œuvre pieuse que nous avons accomplie. Tu dis à Allah, pardonne-moi, comme j'ai été sincère pour toi, comme j'ai fait pour toi ceci, pardonne-moi, élève-moi dans les degrés, accorde-moi telle chose, guéris-moi de cette maladie, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est autorisé. Il y a un dernier point, je l'ai pas mentionné, je comptais pas le mentionner, lakin, je vais le citer quand même, de demander à Allah, de demander à une personne pieuse d'invoquer Allah en ta faveur. Est-ce que ça c'est recommandé ou c'est seulement autorisé? C'est seulement autorisé. Et le mieux, c'est que tu n'aies pas recours à cela et que tu demandes toi-même à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu demandes à quelqu'un? Lakin, si tu le fais, ça reste autorisé. Ça reste autorisé, certains salafs l'ont fait. Mais avec des gens très très pieux. Tu vas à un grand savant, tu le demandes d'invoquer Allah en ta faveur. Mais le meilleur dans tous les cas, c'est la guidée des compagnons, et la guidée du prophète qui a été enseignée, c'est de demander à Allah directement. Parce que c'est ça le tawhid. L'invocation, c'est une adoration. Demande à Allah. Elle renforce ton lien à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant cette adoration de lui demander. Là, le fait de demander à une personne, tu risques de compter sur elle dans l'exaucement. Tu risques de compter sur elle dans l'exaucement de cette invocation. Et habitue-toi à demander directement à Allah et ne pas demander à des gens d'invoquer Allah en ta faveur. Et si jamais les autres, ils le font d'eux-mêmes, ça c'est demandé. Lakin, que toi, tu vas le voir et tu lui dis « Invoque Allah en ma faveur », le mieux c'est de ne pas le faire. Le mieux c'est de ne pas le faire. Et de prendre la meilleure des options, qui est d'invoquer Allah directement. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.